Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer.
Bonjour, on est presque à la fin, il y a encore deux séances à travers le livre de Josué. Et donc, il faut qu'on condense un peu nos enquêtes. Donc, ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est la suite des récits de conquête. Parce que vous vous souvenez que le livre de Josué est partagé en deux. La première partie, plutôt narratif, nous raconte comment la conquête se met en place après la traversée du Jourdain, alors que la deuxième partie, un peu peut-être plus difficile au niveau de la lecture et de la compréhension, c'est la question en fait de la distribution des terres, des territoires, avec beaucoup de listes. Donc on va en parler la semaine prochaine, mais on va être un peu plus rapide. Et surtout, après, à la fin, deux grands discours de Josué qui concluent l'histoire de la conquête. Donc il faut aussi se poser la question pourquoi il y a en effet deux conclusions ou deux discours de Josué. On verra ça la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les récits de Josué 7 à 11 qui font la suite de l'histoire de la conquête de Jéricho. Nous avons vu la semaine dernière que cette conquête de Jéricho, en fait, est une conquête où, en effet, la participation humaine est minime, sauf par rapport, en fait, à ce rituel de circumambulation que nous avons vu. Alors qu'à partir du chapitre 7, on va avoir des récits de conquête où, en effet, la participation humaine, le rôle de Josué va être, en effet, encore renforcé. Donc, le chapitre 7 commence avec la conquête de la ville de Haï, mais qui est très vite interrompu, puisqu'il y a quelqu'un qui s'était enrichi lors de la chute de Jéricho, qui avait en effet subtilisé une partie du harem, du butin. Et donc, du coup, cette conquête de Haï va d'abord tourner mal, jusqu'à ce qu'on a en effet identifié le coupable. Une fois le coupable identifié et mis à mort, donc lui et sa famille, ça on verra, il y a des versions un peu différentes. La conquête de Haï peut en effet réussir au chapitre 8. Ensuite, à la suite de cette conquête, il y a de nouveau une sorte d'interlude, puisqu'il y a une cérémonie de lecture de la loi et de la construction d'un autel sur le mont Ebal. Ebal, c'est le mont qui fait face à Gerizim ou Garizim, je vous en parlerai tout à l'heure. Au chapitre 9, c'est un texte que nous avons vu lors d'un séminaire avec Missonoquet, où en effet, on a l'idée que des gens de Gabaon sont tellement effrayés qu'ils recourent à une ruse pour être acceptés, intégrés dans Israël. Et le chapitre 10, en fait, présuppose ce récit pour, en effet, montrer que Gabaon, maintenant faisant partie d'Israël, effraie les rois autour qui, en fait, se réunissent dans une coalition pour attaquer Gabaon. Et on entend parler pour la première fois d'un roi de Jérusalem. Donc c'est d'ailleurs la première fois que Jérusalem sera mentionnée. Et puis, cette attaque, évidemment, va se terminer par une victoire de Josué et son armée. Et ensuite, on va encore parler du sort des ces rois qui se sont réfugiés dans une caverne. Et vous imaginez que leur sort ne sera pas très, très agréable, puisqu'ils vont être également mis à mort. Ensuite, on va passer de manière plus énumérative à la conquête des villes de la Chephéla. Et une conclusion qui peut être la fin déjà du premier livre de Josué dans la première édition. Au chapitre 11, on va encore élargir la conquête du pays dans le nord. Jusqu'à maintenant, on est resté plutôt dans le sud, jusqu'à Gabaon. Et après, on va passer dans le nord, jusqu'à Hatsor. Et en Josué 12, on va avoir des listes qui vont encore élargir la ville du Nord qui ont été soi-disant conquis par Josué. Donc vous voyez déjà, je vous en reparlerai, il y a une sorte d'élargissement successif des territoires qu'on attribue en fait à la conquête de Josué. Mais regardons maintenant la conquête de Haï qui en fait va d'abord échouer et pour qu'elle puisse réussir, il faut apaiser la conquête divine, la colère divine. Alors de nouveau, je vous rappelle que la Septante a souvent un texte plus court, donc je ne le mentionne pas chaque fois, donc je vous ai mis toujours les textes de la Septante pour que vous puissiez comparer. Les fils d'Israël commirent une infidélité par rapport au Kherem, Akan, fils de Carmi, fils de Zavdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, pris du Kherem, et la colère de Yahvé s'enflamma contre les fils d'Israël. Josué envoya des hommes de Jéricho, ce que manque dans la Septante, vers Haï, qui est du côté de Beth-Aven à l'est, manque également de Bethel. Les hommes montèrent et l'espionnèrent à Haï. Il revint auprès de Josué et lui dirent que tout le peuple ne monte pas, qu'environ 2000 ou 3000 hommes montent et frappent Haï. N'y fatigue pas tout le peuple, en effet, ils sont peu nombreux. Et montèrent là-bas, parmi le peuple, environ 3000 hommes, et ils s'enfuirent devant les hommes de Haï. Et les hommes de Haï frappèrent parmi eux environ 36 hommes. Environ 36, c'est un peu bizarre. Il les poursuivit devant la porte jusqu'aux brèches, et ils les frappèrent dans la descente. Le cœur du peuple fondit, et il devint comme l'eau. Josué déchira ses vêtements, il tomba sur sa face, à terre devant l'arche. Mais l'arche ne manque en fait dans la Septante et il n'est jamais mentionné dans la suite de cette histoire. Donc on peut en effet imaginer que quelqu'un a rajouté l'arche. Le texte ancien disait, il tomba face à terre devant Yahvé jusqu'au soir, lui et les anciens d'Israël, et ils firent monter la poussière sur leur tête. Il dit, « Ah, Seigneur Yahvé, pourquoi as-tu fait traverser à ce peuple le Jourdain pour nous donner dans la main de l'Amorite pour nous faire périr. Si seulement nous avions décidé et étions restés de l'autre côté du Jourdain. » Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est comme dans l'histoire de traversée du désert, pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte? Là, c'est un peu la même chose. Pourquoi nous a fait traverser le Jourdain? Donc, c'est certainement une allusion. De grâce, mon Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Le Cananéen et tous les habitants du pays l'apprendront, ils se tourneront contre nous, retrancheront notre nom du pays, et que feras-tu pour ton grand nom? Yahvé dit à Josué, lève-toi, pourquoi tombes-tu sur ta face? Israël a péché, d'ailleurs ils ont transgressé mon traité que je leur ai commandé. Donc ce qui est d'ailleurs, c'est en hébreu « vegam »,« vegam ». Donc il y a toujours une énumération de tout ce qu'ils ont fait, ce qu'il ne fallait pas faire. D'ailleurs, ils ont pris du kherem, d'ailleurs, ils ont volé, d'ailleurs, ils ont menti, d'ailleurs, ils ont mis dans leurs affaires. Donc il y a vraiment une accusation très forte qui est prononcée ici par le Dieu d'Israël. Les fils d'Israël ne pourront pas se lever face à leurs ennemis, ils tourneront le dos devant leurs ennemis, ils sont devenus kherem. Je ne continuerai plus à être avec vous si vous ne détruisez pas le Kherem qui est au milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle Yahvé le Dieu d'Israël, un Kherem est au milieu de toi, tu ne pourras pas te lever ou vous lever selon la Septante devant tes ennemis jusqu'à ce que vous avez éloigné le Kherem du milieu de vous. Vous vous approcherez au matin selon vos tribus, la tribu que Yahvé aura prise s'approchera par clan, et le clan que Yahvé aura pris s'approchera par maison, et la maison que Yahvé aura prise s'approchera par homme fort. Et celui qui sera pris avec le Kherem sera brûlé par le feu. Lui, tout est ce qui est à lui, en effet, il a transgressé le traité de Yahvé, et il a commis une infamie en Israël. Josué se lève à du bon matin, donc vous avez l'habitude, se lève toujours le bon matin, donc c'est un, évidemment pour dire qu'il exécute ce qui est lui demandé, ce qui lui est demandé. Il fait approcher Israël, selon ses tribus, la tribu de Juda fut prise. Il fit approcher le, c'est probablement faux, le clan, c'est plutôt les clans de Juda. Il prit le clan de Tsachri, il fit approcher le clan de Tsachri par homme fort et Zavdi fut pris. Il fit approcher sa famille par homme fort et fut pris à Akan, fils de Carmi, fils de Zavdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda. Manque encore dans la Septante. Alors Josué dit à Akan, Mon fils, rends gloire à Yahvé, le Dieu d'Israël, et donne-lui louange. Raconte-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. » Akan répondit à Josué, « En vérité, moi j'ai péché contre Yahvé, le Dieu d'Israël, et de telle manière j'ai agi. J'ai vu dans le butin un manteau de chinéar, un seul, beau, et 200 shekels d'argent, un lingot d'eau de 50 shekels. Je les ai convoités et je les ai pris. Le voici caché dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est en dessous d'elle. » Josué envoya des messagers, ils coururent vers la tente, et voici qu'elle était cachée dans la tente, et l'argent était en dessous. Ils prirent du milieu de la tente et les apportèrent à Josué et à tous les fils d'Israël. Ils les déposèrent devant Yahvé. Josué prit Akan, le fils de Sérar, l'argent, le manteau, le lingot d'eau, manque encore dans la septante, et ses fils et ses filles, son bœuf et son âne, son petit bétail, sa tente et tout ce qu'il était à lui. Et tout Israël était avec lui. Ils le firent monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, « Quel malheur tu nous as porté, que Yahvé te porte malheur en ce jour. » Tout Israël le lapida. Donc vous vous souvenez, au début, il était dit, il sera brûlé par le feu. Là, il est lapidé. Tout Israël le lapida. Ils les brûlèrent par le feu, ils les tuèrent par des pierres. Donc ça, ça manque dans la septante, c'est certainement un ajout, on y reviendra. Ils élevèrent sur lui un grand morceau de pierre jusqu'à ce jour, et Yahvé revint de son ardente colère, et c'est pourquoi on appelle le nom de ce vallée, le nom de ce lieu, vallée d'Akor, jusqu'à ce jour. Voilà l'histoire de la mise à mort d'Akan, qui en effet a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Le récit est encadré doublement, il est encadré par le thème de la colère de Yahvé. Donc ça commence, la colère de Yahvé s'enflamma contre le fils d'Israël, et au verset 26, Yahvé revint de son ardente colère. Et il y a un double encadrement, puisque dès le début, on va en effet dire au lecteur qui est le coupable, Akan. Donc en fait, le lecteur, la lectrice, l'auditeur, l'auditrice, ils savent davantage à la fin que Yahvé, puisque Yahvé apparemment ne sait pas, puisqu'il demande à Josué de chercher, et de Josué. Et donc le récit se termine par la mise à mort du coupable. Donc on voit très bien, en effet, si vous regardez la structure, que ce récit a été en effet inséré entre un récit de la conquête de Haï qui continue au chapitre 8. Donc en effet, ce qui est mis en avant ici, c'est le danger que vous courez si vous transgressez la loi du Kherem. Ce qui, où il y a un petit problème logique, je ne sais pas si vous vous souvenez du chapitre 6, il y a un petit problème logique, mais ça n'embête pas trop les auteurs bibliques. C'est quoi le petit problème logique? Chapitre 6, qu'est-ce que s'était passé? Ben, on avait dit qu'ils avaient, en effet, mis tout le monde en Kherem. Ils avaient dit que tout le monde était, en effet, passé par le Kherem. Donc, ce qui présuppose que tout le monde et tout était, en effet, détruit. Alors qu'ici, apparemment, on apprend quand même que ce n'est pas tout à fait ça, puisqu'il y a quelqu'un qui avait quand même pris quelque chose du butin. Mais ce n'est pas très important pour les auteurs. L'idée, c'est en effet de montrer ce qui arrive quand on ne respecte pas ces lois du Kherem. Donc, pourquoi c'est grave? Parce que, comme je vous ai déjà dit, le non-respect du Kherem, c'est comme une épidémie. C'est contagieux. Ce n'est pas seulement le coupable. Mais le coupable, en devenant coupable, c'est un peu l'idée du tabou, le coupable, en devenant coupable, contamine en fait toute la communauté. C'est pour cela qu'il faut l'éliminer. Et donc, le coupable, comme je vous ai dit, il est annoncé d'emblée, il s'appelle Akan, dont on ne sait pas très bien comment il faut le traduire. La Septante, et plus tard aussi le livre des Chroniques, parle plutôt de Akar. Et Akar, ça fait un peu plus de sens, puisque, après ce qu'on va expliquer à la fin, c'est le nom de la vallée d'Akor, qui a la même racine, Aïn Kofresh, qui veut dire en effet amener du malheur, rendre tabou quelque chose. Hein. Et alors soit la Septante a en effet amélioré la chose, ou en effet le Akan est un peu une erreur pour Akkar, c'est difficile de savoir. La famille de Akkar, elle est présentée aussi tout de suite, avec des noms qui évoquent plutôt l'abondance. Son père s'appelle Carmi, sans doute avec un lien avec la racine Kerem, la vigne. Du grand-père Tzavdi, faire un cadeau de Dieu, hein, attesté assez fréquemment dans des noms tardifs de l'époque perse et hellénistique. L'arrière-grand-père, ou le nom du clan Tserach, ça veut dire en effet briller, clarté. Hein, donc c'est tous des noms en fait positifs a priori. Et c'est aussi le nom en fait du deuxième fils de Judas qu'il a avec Tamar. On peut même s'imaginer que l'auteur avait en effet pensé à cette figure-là, puisque on sait que on a affaire avec la tribu de Judas. La tribu de Judas qui est ici présentée de manière un peu négatif. Donc, alors certains ont dit, est-ce que c'est une critique de la tribu de Judas ? C'est possible. Mais dans quel sens ? Est-ce que c'est l'allusion, Graham Holt dit, c'est une sorte d'explication de la destruction de Judas et de l'exil, donc en mettant déjà dans l'histoire ancienne les transgressions de Judas. C'est un peu difficile, mais c'est vrai que si vous prenez l'expression « la colère de Yahvé s'enflamme », hein, on trouve, et dans Josué, il revient de sa colère, mais on trouve dans le livre des rois, après le roi très positif de Judas, Josias, on va dire que toutefois Yahvé ne revient pas de l'ardeur de la colère qui l'avait enflammé contre Israël, contre Judas. Donc là, il y a en effet cette idée de la colère contre Judas. Donc peut-être on peut faire un lien avec ça. Alors, l'envoi des espions, c'est vers Ha'ai. En fait, Ha'ai, c'est toujours avec l'article, dans les traductions, on parle toujours de Ha'ai, mais Ha'ai veut dire simplement la ruine. Donc, il les envoie vers la ruine. C'est le nom, en fait, de Ha'ai, qui est toujours accompagné de l'article. Donc, c'est comme Gilgal. Vous vous souvenez, je vous ai dit, Gilgal, c'est toujours Ha-Gilgal. Et là, Ha'ai, dans les textes bibliques, c'est toujours Ha'ai. Et ce qui est intéressant, c'est chaque fois quand on mentionne Ha'ai, c'est toujours, en fait, en lien avec Bethel. Donc là, vous avez une carte, vous voyez, Bethel et Ha'ai sont très, très proches. Hein, et on peut avoir l'impression qu'on veut, en parlant de Ha'ai, aussi parler de Bethel. Donc la première fois que les deux sont mentionnés, c'est dans l'histoire d'Abraham. Quand Abraham commence à entrer dans le pays, il dresse ses tentes entre Bethel et Ha'ai. Hein, donc peut-être en parlant de Ha'ai, on pense aussi à Bethel. Hein. Alors, Ha'ai, on peut l'identifier avec le site Et Tel, qui en fait correspond un peu à la ruine, parce qu'un tel, c'est une colline qui se construit avec les débris des niveaux de destruction des villes. Et Et Tel, je vous montre tout à l'heure une photo, c'est ça. Donc, c'est une ville, d'après ce qu'on peut voir au niveau de l'archéologie, une ville très importante au troisième millénaire. Donc, ça nous amène très, très lointain. Au troisième millénaire, donc avec un apogée vers 2500, où on imagine que la ville comptait plusieurs milliers d'habitants, avec apparemment aussi un temple, donc une des villes les plus importantes de la région. Et ensuite, pour des raisons pas très claires, cette ville a été abandonnée vers 2300 et repeuplée, mais beaucoup plus modestement, à l'époque du fer, donc à l'époque entre 1000 et 700, 600 avant l'ère chrétienne. Là, très peu de monde, donc vous avez un plan des fouilles. avec peu de fortifications. Donc c'était en fait à l'époque où le livre de Josué était écrit, c'était vraiment déjà la ruine, quoi. Disons, on voyait en fait les débris de la grande ville, et donc il faut avoir ça en tête, ce qui a certainement aussi amené le nom pour l'auteur. Donc l'auteur la mentionne à côté de Bethel. Dans le texte massorétique, on rajoute Beth Aven. Beth Aven, c'est un nom péjoratif pour Bethel, qu'on trouve notamment dans le prophète Osée, donc maison du péché, maison de l'égarement, voilà. Et l'idée, c'est peut-être en effet que, en parlant de la destruction de Haï dans le chapitre 8, on veut peut-être aussi suggérer, sans qu'on vraiment le dise, que ça concerne aussi Bethel. Parce que Bethel, à l'époque de Josias, c'est un sanctuaire assez florissant dans le territoire de Benjamin. Et Josias voulait, en effet, mettre fin au culte à Bethel. Donc on dit, on va au 2 Rois 23, on dit « Josué démolit également l'autel qui était à Bethel ». Bon, on sait quand même que Bethel a continué à exister, puisque au moment où le royaume du Nord est détruit, on nous raconte au chapitre 17 du deuxième livre des Rois qu'il y avait des gens en fait qui continuaient en fait à vénérer Yahvé à Bethel. Mais il y a peut-être là quand même une certaine polémique contre Bethel. Mais revenons à l'histoire. Donc, on a de nouveau des espions. Alors, les espions sont de nouveau pas très utiles. Parce que, souvenez, dans l'histoire de Rahab, il y avait des espions qui n'ont rien fait. Et là, il y a des espions qui reviennent. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent un très mauvais conseil. Ils disent, il ne faut pas se fatiguer. Il y a très peu de monde. Il ne faut pas envoyer tout le monde, 2-3 000 personnes suffisent. Bon, 2-3 000 personnes, ce n'est pas si peu que ça, mais la manière dont c'est tourné, parce que dans d'autres textes, c'est déjà la force de toute une armée, mais ici, le chiffre est présenté comme étant peu important. Et donc, à cause de cela, ça va mal se passer. Donc, on a même l'impression que Josué n'est même pas avec les gens qui montent à Haï, qui, en effet, il envoie 3000 hommes, et puis ça se passe mal. On raconte pas vraiment la défaite en détail, mais on dit quand même que voilà, les hommes de Haï le frappèrent par eux, donc, et ils en fuirent. Alors pourquoi 36? Et ce qui est surtout bizarre, c'est environ 36. Peut-être à l'origine, c'est environ 30, et quelqu'un qui savait mieux a rajouté 36 et puis il a oublié l'environ devant. Donc c'est probablement comme ça que ça se passe. Ça se passe souvent comme ça dans la transmission des textes bibliques. Donc 36, c'est un chiffre relativement modeste quand même comparé aux 3000 qui sont allés. Donc les pertes sont quand même pas si graves. Alors puisqu'on juge 20... Je vous montrerai tout à l'heure que c'est un texte qui est très proche de l'histoire de la conquête de Haï. Il est question de 30. Donc peut-être à l'origine c'était 30, et puis on en a fait 36, peut-être pour avoir 3 fois 12. Plus tard, il y a une tradition, mais je ne sais pas s'il faut faire le lien. Dans le Talmud, on a cette idée que dans chaque génération, il y a 36 justes qui salue la Shekinah, donc la personnification de la présence divine. Je ne sais pas s'il faut faire un lien, mais je n'ai pas trouvé d'autres idées. Si vous en avez, je suis preneur. Donc, ils vont jusqu'aux pentes. Les pentes pourraient peut-être juste signifier les ruines de la ville qui était déjà, en effet, détruite à l'époque où on a écrit ce texte. Et donc, suite à cette défaite, Josué, en fait, se jette par terre et ils font ce que fait Job aussi, ce que les exégètes appellent les Selbstminderungsriten, des rites d'abaissement, puisque dans des cas de deuil ou face à des malheurs, on s'abaisse, on fait être, voyez, on fait semblant déjà être aux portes de la mort. Et on trouve un exemple tout à fait pareil dans le livre de Job. Donc vous vous souvenez de Job aussi, qui se déchire son manteau, qui se rase la tête, tombe à terre, se prosterne. Et c'est ce que Josué fait, puisqu'il comprend la défaite militaire comme une sorte de punition divine, tout en, et ça c'est certainement une insertion, tout en se plaignant d'abord. Et ça, c'est un auteur qui voulait, comme on l'a déjà dit, qui voulait faire un lien avec cette complainte du peuple dans l'histoire de l'Exode et dans le livre des Nombres. Pourquoi nous as-tu fait sortir du pays d'Égypte pour que nous faire périr dans le désert? Ça, c'est des questions en fait qui sont posées à Moïse. Hein, et ici, Josué reprend cette question par rapport à la traversée. Donc, c'est un peu la suite de cette complainte, mais noté beaucoup mieux où on a été. Quelle idée d'entrer dans ce pays. Donc là derrière, on a certainement tout un débat autour des personnes de la Gola babylonienne qui n'étaient pas très à même de vouloir en effet rentrer dans le pays en disant on est beaucoup mieux là où nous sommes, pourquoi faut-il traverser le Jourdain pour aller dans ce pays. Et donc ça se reflète dans ce questionnement. Mais ensuite, comme Moïse aussi, Josué cherche des arguments pour détourner Dieu de laisser libre cours à sa colère en disant « mais pense à ton grand nom, pense à ton grand nom. Si tu nous abandonnes, qu'est-ce que diront les autres peuples ?» Ah oui, Dieu est quand même un peu… Il est attentif à cet argument. Parce qu'avec Moïse, ça marche aussi. Et là, ça marche aussi d'une certaine manière. Donc, c'est un peu la réputation du Dieu d'Israël vis-à-vis des nations. Et donc, du coup, en effet, Dieu dit bah, il faut agir maintenant. Et dit à Josué maintenant, lève-toi. Donc, ce qui était sans doute la suite de la question, pourquoi, du verset 3 où Josué tombe par terre, et puis il avait lui dit, lève-toi, pourquoi tombes-tu sur ta face? Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut en effet trouver le coupable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Dieu ne sait pas qui est le coupable? Les pères de l'Église se sont posé la question. Pourquoi il lui dit pas c'est Akan qui l'a fait, t'as qu'à le punir? Il faut faire une sorte d'ordalie, il faut faire une sorte d'acte de divination. Hein? Et c'est une sorte de légitimation de la divination hein? Qui probablement se fait par tirage au sort. Hein? Là, on a. Comment on va identifier le coupable? Donc, malheureusement, le texte ne nous dit pas exactement comment ils ont fait. Mais probablement, c'était par. On va du plus grand au plus petit. Donc, d'abord, la tribu, les 12 tribus, quelle tribu c'est, à l'intérieur des tribus, etc. Et donc, vous avez, en effet, c'est un texte très intéressant parce qu'il vous donne un peu la structure tribale. Hein, il vous donne un peu la structure tribale. La structure la plus grande, c'est Chevet, c'est la tribu. Dans d'autres textes, surtout sacerdotal, on parle plutôt de Maté, mais ici c'est la tribu, Chevet. Ensuite, la tribu composée de clans, hein, de Mishpacha. Les clans sont composés par des grandes familles, des familles élargies, les Beit, Baitim, Avot, souvent les maisons des pères. Et à l'intérieur de ces maisons de pères, il y a en effet des chefs de clan, des chefs de famille qui sont appelés ici Giborim, les hommes forts. Et cette divination, elle marche très bien. Donc c'est une divinisation qui n'est pas critiquée dans les textes bibliques, puisque nous avons d'autres textes dans le livre de Samuel où ça marche de la même manière. Contrairement à d'autres divinisations qui, au chapitre 18 du livre du Deutéronome, sont interdites. Mais pensez quand même aussi à la coupe de divination de Joseph dans la Genèse où on ne s'offusque pas non plus. Donc la divination, c'est une manière en fait de connaître la volonté, disons, de connaître le coupable. Alors le coupable, il est arrêté, mais au moment où il est arrêté, ça ne suffit pas, puisque Josué l'appelle et lui demande de dire ce qu'il a fait, c'est-à-dire il faut que le coupable en fait avoue sa faute. Ce que Akan va faire ensuite au verset 20, en disant voilà ce que j'ai fait, j'ai pris du butin, chalal, et il a pris surtout un manteau de shinéar. Qu'est-ce que c'est le manteau de shinéar? Shinéar, c'est un terme qui n'est pas très fréquent, qui désigne dans l'histoire de la tour de Babel, Babylone en fait, shinéar. Donc, quand il dit « j'ai pris un manteau de shinéar », ben aujourd'hui, il dira peut-être « j'ai pris un manteau de Paris ou de haute couture ». Donc, c'est un peu l'idée, quelque chose voilà, de très chic, et de très cher probablement aussi. Et ça présuppose sans doute l'exil babylonien où les Judéens étaient en contact avec ces vêtements babyloniens. Et donc, imagine un peu que c'est vraiment le luxe le plus pur. Donc je pense, là, c'est... après on va passer à l'argent, mais là d'abord on passe au luxe, et ensuite on passe à l'argent. Donc il a vu qu'il était beau, ça rappelle un peu l'histoire du paradis. Lorsque la femme voit aussi que le fruit de l'arbre était très beau, donc il y a peut-être une petite allusion à ça, et il convoite, ça c'est un peu un terme qu'on retrouve au Décalogue, donc c'est des textes assez tardif, qui présuppose déjà toute une intertextualité avec la Genèse, avec le Décalogue et avec d'autres textes. Et le montant en argent et en or, il est assez conséquent. Il est assez conséquent puisque on nous parle en fait de 200 shekels d'argent et 50 shekels d'or. Ce qui fait pas mal. Donc, si on calcule, si on dit, mais on ne sait pas exactement, c'est approximatif. Si le change, en fait, d'argent à or est à 1 à 20, et on a quelques textes qui suggèrent ça, donc il aura, en fait, eu 1200 shekels, ce qui correspond quand même à quelques dizaines de salaires d'un ouvrier au 6e, 5e siècle avant notre ère. Donc la transgression est quand même assez importante, sans doute exagérée, mais voilà ce qui est reproché à Akan. Et c'est toujours pas fini. Donc Akan a confessé sa faute, mais Josué fait quand même vérifier. C'est-à-dire, en fait, vous avez trois étapes. Vous avez la divination qui marche. Ensuite, vous avez la confession du coupable, mais il faut encore vérifier les faits. Ce qu'il n'y a pas fait dans les régimes un peu autoritaires, il suffit que le soi-disant coupable confesse et puis on s'en fiche des faits. Mais là, on va quand même insister sur le fait que Josué fait vérifier. Et en effet, ce qui dit Akan est en effet avéré. Et donc, c'est à ce moment-là seulement qu'on peut passer à la sanction. La sanction, donc, c'est qu'il faut éliminer tout ce qui appartient à Akan, mais vous allez voir, ce n'est pas tout à fait pareil dans le texte massorétique et dans le texte de la Septante. Alors, d'abord, l'accusation que Akan apporte du malheur, Aïn Kafresh, Ça prépare en effet l'étymologie de la vallée d'Akor. Et dans le texte de la Septante, on dit seul Akan en fait est lapidé. On oublie le feu maintenant, on insiste sur la lapidation. Alors que le texte massorétique rajoute ils les brûlèrent, donc tout ce qui appartient à Akan, que ce soit les êtres vivants ou tous les biens, ils les brûlèrent par le feu et ils les tuèrent par des pierres. Donc c'était une idée en fait pour montrer que ce n'est pas seulement Akan qui punit, mais l'ensemble en fait de son clan. Et là, vous avez, en fait, dans la Bible, tout un débat sur la responsabilité individuelle et collective. Quand il y a, en fait, une transgression, est-ce que c'est tout le clan ? Est-ce que c'est toute la famille qui doit être punie ? Vous avez ça encore dans le décalogue, qui punit les fautes sur les, des pères sur les fils et les petits-fils sur la troisième, quatrième génération. Hein ? Donc ça, c'est une idée qui est assez répandue. Hein, donc une sorte de punition ou responsabilité collective, mais aussi d'autres textes qui disent le contraire, que le fils ne sera plus mort, ne sera même sera plus mis à mort pour les fautes des pères. Ça, vous l'avez aussi dans le Deutéronome. Hein. Vous avez aussi ce texte dans le prophète Ézéchiel qui dit « Il y a eu un proverbe, les pères ont mangé des raisins verts, ou pas mûrs, et c'est les fils qui ont les dents abîmées. Hein, » Donc pour dire en fait, la faute des pères tombe sur les fils. Hein, et c'est qu'il va dire, mais ce proverbe-là, il sera plus valable. Hein. Et ici, vous avez entre Septante et texte massorétique, peut-être un peu déjà ces deux visions. Hein. Est-ce que c'est seulement Akan qui est puni, ou est-ce que c'est tout son clan ? Et ça, c'est un débat, évidemment, qui parcourt la Bible, pas seulement la Bible, vous l'avez aussi dans d'autres textes. Et c'est une question qui, voilà, qui peut se poser dans certains endroits du monde jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc, l'idée, en fait, des responsabilités d'un clan, d'une famille, etc. Bon, vous savez de quoi je veux parler. Alors, donc, du coup, après l'avoir tué, donc on va parler en fait d'un morceau de pierre, hein, d'un morceau de pierre qu'on va élever sur le cadavre de Akan. Donc ici, les autres, on n'en parle plus, c'est peut-être quand même le texte le plus ancien où c'est juste Akan qui est mis à mort. Et alors, des morceaux de pierre, vous en avez pas mal à l'époque, qui peuvent avoir des significations différentes. Pensez aussi à l'histoire du traité entre Jacob et Laban. Ils ont aussi érigé un morceau de pierre qui présentait à la fois comme étant le souvenir de ce traité, mais qui probablement à l'origine était une sorte de marqueur de frontières. Hein. Et donc ça peut marquer des frontières, ça peut indiquer des chemins, mais ça peut être aussi des tombeaux. Ici, c'est sans doute l'idée du tombeau, mais aussi d'éviter une contamination avec le cadavre ou avec les cendres. Hein. Donc, sans doute, il y a eu, à côté de Haï, sorte de ce monceau de pierre qu'on voulait expliquer à l'audience. Disons, mais pourquoi est-ce qu'il y a ce monceau ? Ben, c'est là, en effet, on a couvert Akan, aussi pour qu'il ne contamine plus la communauté. Donc la vallée d'Akor, c'est une vallée qui est mentionnée plusieurs fois dans les textes bibliques, qui disent en effet que c'est une vallée qui est connotée négativement, mais qui peut devenir dans Osée une porte d'espérance, où après l'exil, Yahvé fera de nouveau entrer le peuple dans le pays. Où, en Ésaïe 65, on dit en effet que la vallée d'Akor va devenir un lieu de repos. D'ailleurs, à Qumran aussi, on en parle encore de la vallée. On ne sait pas exactement où il faut l'identifier, avec quelle vallée. Moi, je vous ai mis ici les trois possibilités d'identification qui sont suggérées par les spécialistes. Donc, c'est bon. Je n'entre pas dans le détail, mais probablement quand même l'identification la plus probable, c'est ici, c'est de ce qu'on appelle la Boukéa, où en effet, on n'est pas très loin de Haï et où en effet, c'est un peu désertique comme ça, donc on peut en effet penser à quelque chose de très négatif. Les autres, c'est des wadis. C'est des wadis, quoi. Mais là, je pense que c'est quand même probablement l'identification la plus probable. Et c'est seulement à ce moment-là, selon la structure actuelle, qu'on peut raconter l'histoire de la conquête de Haï. Peut-être à l'origine, tout ce que nous avons au chapitre 7 n'était pas dans le livre. Donc on avait peut-être juste raconté la conquête de Haï. Maintenant, on l'a fait précéder par cette expérience d'échec. Et là, maintenant, on va avoir une conquête qui va se passer de manière très, très bien. Hein ? Donc Yahvé, je ne vais pas vous lire le texte, vous le regardez un peu, je le résume. Donc Yahvé dit à Josué, il ne faut pas craindre. Il faut agir avec Haï comme avec Jéricho et son roi. Et Josué se lève avec 30 000 hommes. Donc souvenez-vous, il y avait 3 000. Là maintenant, c'est avec 30 000. Et puis, donc, il met en place une embuscade. Il raconte comment, en fait, ça va marcher. Ils vont vers l'embuscade et Josué se lève de nouveau de bon matin au verset 10. Vous connaissez, c'est presque comme un refrain. Et puis, après, quand on continue, on a l'impression que l'embuscade n'est pas encore mise en place. Parce que, donc, au verset 12, on a simplement l'idée qu'il prend avec lui 5000 hommes et il les place comme embuscade. Alors, avant, il avait déjà parlé de l'embuscade. Donc, là aussi, il y a un texte plus ancien qui était, en effet, retravaillé. Le roi de Haï les voit. Il sort de la ville. Évidemment, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Donc Josué et son armée l'attirent à l'extérieur. L'embuscade va occuper la ville et donc il court. Et lorsque, alors là, c'est aussi curieux, il avait dit à Josué, étends le javelot qui est dans ta main. Donc ça, c'est un peu bizarre parce qu'un javelot, ce n'est pas très grand. Et l'idée, c'est que c'est le signe pour que, en effet, l'embuscade vient de son emplacement. Ils coururent et ils prennent la ville et ils mettent le feu. Donc après, les autres s'enfuient, mais il n'y a pas de survivants. Mais il y a quand même des survivants parce que le roi de Haï va se trouver en effet caché, disons capturé et amené à Josué. Et puis Josué en fait met le roi en prison d'une certaine manière jusqu'à ce que les autres, donc là aussi on revient, on raconte la mise à mort des autres membres de l'armée. Et puis à la fin, on va en effet encore une fois raconter que la ville a été brûlée, alors qu'on l'a déjà dit, et que le roi il est pendu sur un arbre. Mais il n'y reste pas la nuit, et puis on verra ça. Donc voilà l'histoire de la conquête de Haï. Donc je vous invite à la relire tranquillement. C'est une histoire qui, comme je disais tout à l'heure, a des parallèles très proches avec un autre récit de combat qui est raconté dans le chapitre 20 du livre des Juges, où là, il y a une coalition des tribus d'Israël qui attaque une ville benjaminite. Donc là, il y a des conflits entre tribus de Gibéa. Et ça se passe de la même manière. Il y a l'oracle de salut, la préparation de l'embuscade, la fuite, l'attaque de l'embuscade, le signal de fumée, le massacre des survivants, le total des morts et la ville brûlée. Donc c'est clair que ces deux récits sont liés. Probablement, l'auteur de Josué 8 connaît déjà Juges 20 et construit un peu son texte en fonction de cela. En fonction de cela, mettons de nouveau en place Josué comme un chef de guerre. Donc vous connaissez maintenant très bien cette formule qui revient tout le temps, « Ne crains pas, sois pas abuti, je donnais dans ta main les ennemis, etc. » Donc vous avez une petite synopse ici où ces expressions se retrouvent. Donc c'est un condensé de tous ces oracles de salut dans un contexte de guerre. Et on renvoie à l'histoire de la destruction de Jéricho, puisqu'il est dit au verset 2, « Tu agiras avec Haï et son roi comme tu agis avec Jéricho et son roi. » Bon, alors si vous êtes attentif, vous avez vu aussi qu'il y a une petite inconséquence là. Jéricho, on sait ce qu'ils ont fait, mais le roi de Jéricho, il est mentionné juste au début en fait. Hein, c'est pas vraiment s'il avait eu un traitement spécifique. Hein, il n'arrive pas à la fin de l'histoire. Hein. Alors que le roi de Haï, il va arriver à la fin de l'histoire. Et contrairement à Josué 6, maintenant, et c'est presque peut-être un peu en opposition à Josué 7, le butin est maintenant accepté. Hein? Parce que, cependant, tu agiras avec Haï et son roi comme tu agis avec Jéricho, son roi, cependant, son butin et son bétail, vous le pilerez pour vous. Ce n'est plus inclus dans le cherem. Donc il y a une sorte de modification de l'idée du cherem en disant vous pouvez quand même prendre du butin. Alors pourquoi? Je pense que c'est un peu la différence dont nous avons déjà parlé. Je vous ai dit, souvenez-vous de la stèle de Mécha, où on dit aussi que voilà, Mécha a voué au cherem tous les habitants de la ville, mais après, vous vous souvenez qu'est-ce qu'il en a fait? Il les a utilisés pour faire des travaux, des constructions. Donc ça veut dire qu'il y a la théorie et il y a la pratique. La théorie, c'est que tout revient à Yahvé, surtout en Jéricho 6, en Josué 6, puisque Jéricho, Yahvé a tout mis en place. Et puis, en réalité, on a certainement fait un sacrifice de reconnaissance pour la divinité, mais évidemment, économiquement, ce n'est pas très intéressant de vouer tout au cherem. Et au chapitre 8, là, il y a aussi le fait que la ville est prise davantage par l'initiative de Josué, hein, qui fonctionne là vraiment comme un chef de guerre en mettant en place l'embuscade, etc. Hein. Et donc, du coup, il y a d'emblée la possibilité de prendre du butin, comme d'ailleurs c'est prévu en Deutéronome 20, si la ville ne fait pas la paix avec toi, Yahvé ton Dieu te la livrera, tu passeras toute sa population mâle au fil de paix, mais les femmes, les familles, les bêtes, tout ce qui sera dans la ville, vous le prendrez comme butin. Hein? Donc là, déjà, on fait une distinction. Il faut, en effet, garder cette possibilité. Et donc, l'embuscade, en fait, d'abord, les versets 3 à 9, comme je vous ai dit, sont certainement ajoutés puisque l'embuscade se met en place simplement au verset 10, mais là, déjà, Josué la met en place de manière très détaillée. Donc là, on a presque l'impression à quelqu'un qui s'est intéressé à ces techniques militaires. Hein. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas une sorte d'idée de se battre à l'extérieur de la ville, mais d'attirer en fait toute la population en dehors de la ville. Alors ça nous montre quoi? Parce qu'en fait, les Assyriens, elles font comment? Les Assyriens font des sièges. Hein, ils font des sièges qui peuvent durer des semaines, donc pour, en effet, affaiblir la population par la faim, par la coupure d'eau, etc. Et ici, apparemment, il faut que la population sort, en fait, de la ville. Donc ça veut dire peut-être aussi que au moment où on a écrit ce texte, les Judéens certes, n'étaient pas en mesure de faire des sièges à la manière des Assyriens. Hein, donc il fallait plutôt attirer les gens à l'extérieur. Et puis, comme on l'a vu, Josué maintenant prend 30 000 hommes, contrairement aux 3 000, qui n'étaient pas suffisants au chapitre 7 du livre de Josué. Donc, l'embuscade consiste en hommes forts, des giborim. C'est le même terme qui est utilisé au chapitre 7 pour parler, en fait, des chefs de famille. Et elle se cache, cette embuscade, elle se cache derrière la montagne à partir de laquelle, dans le livre de la Genèse, Abraham est appelé de regarder tout le pays promis. Donc là, il y a certainement un lien. Donc vous vous souvenez, Abraham arrive entre Haï et Bethel, et puis il se met sur un haut lieu, et puis Dieu lui dit de regarder le pays. Alors dans le récit ancien, c'est un peu différent, puisque selon cet récit, Josué s'approche d'abord de Haï et met en place l'embuscade ensuite. Hein? Selon le verset 11, Ce campement de l'armée se trouve au nord de la ville, mais c'est un texte peut-être rajouté puisqu'il manque dans la Septante, où se trouve le Wadi Jaya, qui est une vallée très, très, très profonde et qui fait une défense difficile. Donc là, vous avez le nord, le Wadi Jada. Donc là, vous avez en fait Aï et Tel. Et l'idée, c'est qu'ils sont au nord, en fait, pour couper ceux qui sortent. Donc le plan va très bien marcher. Les habitants et le roi sont imprudents. La ville est ouverte. C'est le contraire de la ville fermée dans le livre dans l'histoire de Jéricho. Et on parle d'un lieu de rassemblement dans le texte massorétique. C'est probablement une sorte de dernière aire de repos avant la traversée du désert, avant de se mettre en route en direction de Jéricho. La mention de Bethel, je vous ai déjà dit, on veut un peu lier le sort de Haï et le sort de Bethel. Mais là, nous avons encore un autre ajout, puisque tout d'un coup, il avait dit à Josué d'éteindre le javelot qui est dans ta main. Pourquoi ? Oui, on peut se poser la question. Alors, on peut se poser la question, donc on peut dire que c'est une sorte de stratège de fauteuil qui avait une idée, mais c'est plutôt l'idée en fait de mettre en relation Josué, encore une fois, avec Moïse. Ce que vous souvenez, l'histoire de Moïse dans le livre de l'Exode. Dans le premier combat, il a dû lever en fait ses mains. Hein, et c'est Josué qui a mené en fait la guerre en bas. Donc il était sur une montagne, il levait les mains, qui est soutenu par Hur et Aaron. Hein. Et donc là, on met un peu Josué dans la même posture, d'une certaine manière. Hein. Donc il est difficile, évidemment, d'imaginer comment l'embuscade, en plein tumulte, puisse en effet voir ce javelot. Mais en même temps, c'est en effet un motif iconographique très répandu, à la fois en Mésopotamie et en Égypte, où vous avez en effet une divinité ou un roi qui brandit ces sortes de kidon, voilà ici, égyptianisant, pour en effet montrer ou symboliser la victoire contre les ennemis. Donc je pense que cette idée revient en fait, vient de ce texte-là. En fait, Josué de nouveau est mis dans le rôle en fait du roi hein, qui va remporter la victoire. Ce qu'on va raconter dans la suite, la ville est prise sans survivant. Ce qu'on trouve aussi souvent dans les textes donc assyriens et dans la Bible, dans le texte deutéronomiste. Alors, l'histoire se termine par le sort du roi de Haï et l'exécution du Kherem. Donc là, le chiffre de 12 000 morts est certainement exagéré. Parce que je vous ai dit même, et il ne pouvait même plus le savoir, au troisième millénaire, Haï avait peut-être, si on compte bien, 5 000 habitants. Donc avec 12 000, on est quand même... Donc l'idée, c'est que chaque tribu a peut-être, en effet, tué 1 000, on ne sait pas, mais c'est certainement un chiffre symbolique. Et en fait, on est intéressé ici dans l'exagération, d'une certaine manière, et on admet, comme je vous ai dit, le butin, et on s'intéresse au sort de la ville, qui devient ruine, et c'est une manière en fait pour expliquer pourquoi on parle toujours de Haï, la ruine. Donc là on a l'explication, puisque la ville est totalement incendiée, détruite, et le roi qui encadre en effet ce dernier passage, on l'amène vers Josué. On a l'impression que Josué le garde. On retourne encore une fois, donc on voit très bien que le texte n'est pas d'une seule main, donc on revient. On tue encore tout ce qui reste, on revient vers Josué et finalement, on met à mort le roi de Haï en le pendant en fait sur un bois, sur un arbre. C'est un peu comme la pratique des Assyriens qui préfèrent l'empalement, mais c'est la même chose, donc c'est une pratique en fait d'humiliation. pratique d'humiliation. Le fait qu'on descende le cadavre le soir, ça montre qu'on connaît déjà Deutéronome 21, puisqu'on dit si un homme coupable a été mis à mort et que tu l'es pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Tu l'ensevelirais le jour même, car ce qui est pendu est une malédiction de Dieu. Tu ne rendras pas impure la terre que Yahvé ton Dieu te donne comme patrimoine. Donc là, on retrouve le monceau de pierre comme sépulture. Mais cette idée, en effet, de ne pas laisser quelqu'un exposé pendant la nuit, il faut en effet le sortir de son bois ou de son empalement, on va l'utiliser plus tard, après, dans le Nouveau Testament, en parlant en fait de la crucifixion de Jésus, où on va citer en effet ce texte-là. D'ailleurs, la Septante a déjà un terme dont je ne me souviens plus maintenant, qui évoque en fait, dans les bois, qui évoquent déjà la crucifixion. Donc là, il y a une relecture chrétienne, évidemment, dans la Septante. Alors, cette histoire, en fait, de la conquête d'Haï se termine, ou disons se termine, est suivie d'un texte qui n'a rien à voir avec la conquête, mais qui nous parle de la construction d'un autel sur le mont Ebal, et la lecture et la copie. La deuxième écriture de la Torah. Hein? Donc c'est un texte que vous avez ici. Donc Josué bâtit un autel sur le mont Ebal, selon ce que Moïse lui avait commandé. Il inscrivit la copie de la Torah. La Septante va traduire la deuxième loi, ce qui donne Deutéronome ensuite, la deuxième loi. Et ensuite, il y a une sorte de cérémonie qui géographiquement est assez difficile à imaginer. Donc il y a Garizim et Ebal. Ils sont devant, mais on ne sait pas très bien qui est où. Et donc, pour en effet écouter et bénir le peuple d'Israël. Voilà, donc c'est un texte qui apparemment est très tardif, puisque nous l'avons dans deux manières différentes dans la Septante. Il y a une partie de la Septante, donc le Codex Alexandrinus, là, au même endroit que le texte massorétique, mais dans le Vaticanus, ce texte se trouve à l'intérieur de l'histoire de Gabaon, chapitre 9. Donc ça veut dire qu'apparemment c'est une insertion assez tardive. Il n'y a pas beaucoup de différence non plus entre le texte massorétique et la Septante. Donc ça veut dire aussi que c'est plutôt un texte récent qui apparemment n'avait pas deux histoires de transmission plus complexes. C'est une histoire qui est clairement reprise de Deutéronome 27, où en effet il y avait dit déjà à Moïse d'inscrire les paroles de la Torah, de construire un autel sur Ebal. Et là, le Pentateuque samaritain n'est pas d'accord parce qu'il pense davantage sur le mont Garizim, pour des raisons que vous pouvez imaginer. Et donc, ensuite, il y a les bénédictions et les malédictions. Et donc, si vous comparez Josué 8 se présente en effet comme l'accomplissement de Deutéronome 27. Seulement, il inverse les deux choses. Donc, on commence avec la construction de l'autel et seulement après, l'inscription des paroles de la Torah. Hein. Mais on trouve aussi l'idée de malédiction et bénédiction, donc c'est certainement deux textes qui vont ensemble, hein, qui vont clairement ensemble. Alors, c'est un texte qui fait allusion à quoi ? Qui fait certainement allusion au sanctuaire sur le mont Garizim. Hein. Donc là, on parle du mont Ebal. Alors, certains disent, parce qu'on ne veut pas mentionner le Garizim, hein, mais on tient compte quand même du fait que il y a ces deux monts à côté, en face de Sichem, Naplouse actuelle, hein, qui, en effet, Sichem joue un rôle très important à la fin du livre de Josué, parce que c'est là, en effet, que Josué va réécrire un livre, le Sefer Torah Ta'elum, le livre de le rouleau de la Torah de Dieu. Et donc ce sanctuaire de Garizim, évidemment, est très important, qui commence en fait à l'époque perse. Et donc ça c'est très important, c'est-à-dire qui était en effet contemporain du deuxième temple de Jérusalem. Hein, donc là les fouilles archéologiques, parce qu'avant on pensait que c'était un temple un peu, comment dire, qui s'était mis suite à une scission du clergé et qui aurait commencé à exister seulement au 4e, 3e siècle. Mais au niveau archéologique, il est très clair que ce temple ou ce sanctuaire a été construit déjà à la même époque où on a reconstruit le temple. Et récemment, il y a même un collègue israélien de Haïfa, Eran Arieh, qui pense que c'est peut-être même encore plus ancien qui aura pu exister déjà du 7e, 6e siècle. Bon, ça, c'est compliqué parce que les fouilles ont été très mal faites. Donc, c'est pas très bien si... Voilà. Mais disons, voilà, on va pas aller jusqu'à là. Si c'était vrai, alors la réforme de Josias aura encore un sens très, très différent s'il y avait déjà quelque chose sur le Garizim. Mais là, pour le moment, c'est un avis minoritaire. Mais c'est en effet un temple très important et on a suffisamment de documentation qui montre en effet que c'était les deux grands sanctuaires yavistes à l'époque perse. Et donc que le clergé du Garizim était en contact avec le clergé de Jérusalem. C'est pour cela aussi on explique pourquoi en fait les deux ont accepté la Torah. S'il n'y avait aucun contact entre le Garizim et Jérusalem, pourquoi les Samaritains auraient accepté la Torah? Et quand les gens de Éléphantine veulent reconstruire leur temple qui est détruit, ils écrivent à la fin au clergé, ou aux responsables de Jérusalem et aux responsables du Garizim. Donc c'est en effet un temple très important. En fait, on a trouvé à l'époque hellénistique des inscriptions sur le Garizim. Et ce qui est très intéressant par rapport à notre texte, dans ces inscriptions, en effet, c'est des inscriptions gravées dans la pierre, des inscriptions de consécration, des dédicaces aussi, qui montrent l'importance du temple à cette époque, avec des noms qu'on connaît très bien dans la Bible, l'histoire d'Israël. On retrouve Adonai, Elohim, même Yahvé. On retrouve des ossements d'animaux sacrificiels. Donc, en effet, c'est un temple qui est en plein fonction. Et ce qui est intéressant, c'est cette idée, en fait, d'inscriptions qui sont faites sur des pierres. Puisque c'est exactement ce qui est dit dans le texte de Josué 8, puisqu'on va dire que là, il inscrivait sur les pierres la copie de la Torah, ou deuxième Torah, selon le texte grec. Donc Josué doit faire une sorte de journal mural, il doit inscrire sur des pierres la Torah, avec l'idée que la Torah, selon Deutéronome, se trouve à côté de l'Arche de l'Alliance, qui est mentionnée ici. Et donc Josué doit faire une sorte de copie visible, ce qui rappelle ce que nous connaissons de Der Allah, où nous avons en fait, soit sur des murs, d'autres pensent en fait à l'origine sur des stèles, une sorte de texte qui met en scène en fait les visions de Balaam. Balaam qui est connu d'ailleurs aussi dans la Bible. Donc c'était peut-être quelque chose comme ça qu'on avait en tête lorsque Josué doit donc en effet mettre en place cette copie de la loi dans le Garizim. Donc ça peut dire aussi, c'est peut-être quand même aussi une certaine légitimation de ce qui se passe dans le Nord. Ils ont une copie de la Torah là-bas. C'est ça ce qu'on va dire. Ils ont une copie de la Torah. Même si on ne mentionne pas Garizim, on mentionne Ebal, peut-être on ne veut pas aller jusqu'à là, mais on admet que là-bas se passe quelque chose, Josué fait une copie de la Torah. Et donc c'est un texte certainement récent, mais qui légitime d'une certaine manière Josué comme figure du Nord aussi, même si les Samaritains n'ont accepté que le Pentateuque, il y a toutes des traditions sur Josué qui sont très positives, qui existent aussi chez les Samaritains. Et à la fin, on va le voir la semaine prochaine, à la fin du livre, la Torah de Moïse va devenir en fait la Torah de Dieu. Hein, parce que c'est Josué qui va écrire une nouvelle Torah qui, d'une certaine manière, se met à côté de la Torah de Moïse. Maintenant, il y a là Sefer Torah Elohim. Mais ça, nous le verrons en fait la semaine prochaine où je vous montrerai un peu la suite et la fin du livre de Josué. Donc maintenant, on va faire une petite interruption et puis vous allez avoir une communication de Patrick Pouchel sur les psaumes de Salomon que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être pas. Mais ça mérite la découverte. Donc restez. Et puis les autres, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.